mardi soir, donc, le décryptage de la vie politique en France. Et ce soir, c'est avec vous, Stewart Shaw. Bonsoir.
Bonsoir.
Responsable des études politiques et sociétales de l'Institut de sondage Via Voice. Ah, bien évidemment, la classe politique commente aujourd'hui encore la crise diplomatique née de la rupture par l'Australie du contrat de sous-marin français pour acheter les submersibles américains. Le nouveau président du Rassemblement national, Jordan Bardella, critique vertement l'exécutif. Il le disait ce matin sur Europe 1.
Cette affaire est l'énième symbole du déclassement de la France, du déclin français et de l'effacement de notre pays sur la scène internationale. Le général de Gaulle disait « Nous n'avons pas d'alliés en matière de relations internationales, nous n'avons que des intérêts ». Il est vrai qu'on a un peu trop souvent à considérer les États-Unis d'Amérique comme nos amis de cours de récréation. Or, les États-Unis défendent leurs intérêts. Et ce qui est un peu dramatique, c'est que on soit extrêmement naïf et qu'on ne le comprenne que trop tard.
Quant au porte-parole du gouvernement, on l'entendait tout à l'heure dans le journal, il annonce que le président américain va s'entretenir au téléphone avec Emmanuel Macron. Gabriel Attal replace cette affaire dans un contexte géopolitique sur BFM.
C'est un enjeu stratégique avant d'être un enjeu commercial. La question qui se joue ici, c'est celle des forces en présence, des équilibres dans la zone Indo-Pacifique, où se joue une partie de notre avenir et des relations avec la Chine. La France est un pays de la zone Indo-Pacifique. Il faut bien le mesurer. Nous avons des territoires, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie. Nous avons des Français qui y résident. Nous avons des militaires qui y sont stationnés.
Stewart Shaw, donc de Via Voice, la grandeur de la France en prend un coup, hein.
Oui, c'est une affaire qui fera pas du bien, évidemment, à cette idée, au sentiment selon lequel la France est en déclin et qui est partagée, si on en croit les différents chiffres des études d'opinion, par 62% des Français. Alors, il faut quand même être assez prudent lorsqu'on lit ce chiffre, puisque sur ces 62% des Français, on remarque finalement que on a une identification assez précise des profils des personnes qui le pensent. D'abord, des personnes qui sont beaucoup plus à droite et surtout à l'extrême droite, 94% des sympathisants, par exemple, de Rassemblement National sont de cet avis-là. Et plutôt les jeunes, au-dessus de 25 ans, voilà, entre 25 et 49 ans, on a effectivement ce sentiment que la France perd de sa grandeur, perd de sa puissance.
Les Français qui sont fiers d'ordinaire de leur emblème, le coq gaulois, est-ce qu'ils ont le sentiment de perdre des plumes dans cette crise diplomatique ou est-ce que c'est une affaire entre pays, entre politiques et tout à fait médiatique ?
Alors pour l'instant, effectivement, le sujet en tant que tel ne fait pas beaucoup parler dans l'opinion. Alors on n'a pas d'éléments d'étude aujourd'hui qui l'objectif forcément. Mais si ce sujet n'est pas forcément connu de l'opinion parce qu'il est lié à des enjeux géopolitiques assez complexes, il est quand même, en tout cas, possiblement, une conséquence assez néfaste pour le président candidat éventuel Emmanuel Macron, puisqu'il va porter, encore une fois, la tendance qui est celle d'une France qui est en déclin, qui ne sait pas défendre ses intérêts sur le plan international. D'ailleurs, dans un contexte assez compliqué de post-crise, où on va aussi effectivement rentrer dans les conséquences et dans le bilan de cette crise sanitaire qui s'annonce évidemment complexe à négocier pour l'exécutif.
Pour ce qui est de la politique en tant que telle, le congrès du Parti Socialiste vient de se terminer à Villeurbanne, près de Lyon. Une 79e édition tournée vers l'élection présidentielle, bien évidemment, après 5 années difficiles et de longues hésitations. Le PS semble s'être enfin mis en ordre de marche pour 2022. Aurélien de Vernois est sur place pour RFI.
Merci d'avoir tenu bon.
Reconnaissant Olivier Faure, reconnaissant au cadre du parti de lui avoir renouvelé leur confiance comme patron du PS, reconnaissant aussi d'avoir fait taire les divisions.
La flamme. Nous avons adopté hier le projet socialiste, le premier depuis 10 ans.
Et il en est persuadé, le PS a sa carte à jouer lors de l'élection présidentielle, malgré la multiplication des candidatures à gauche.
Parce que nous sommes la surprise de cette échéance, parce que nous sommes prêts, nous avons retrouvé notre crédibilité électorale. Nous sommes redevenus la force motrice de la gauche et de l'écologie. Cette renaissance, c'est la vôtre, c'est la nôtre.
Tout n'est pourtant pas complètement réglé. Le parti n'a toujours pas de candidat officiel pour la présidentielle, même si Olivier Faure et la direction du PS ont déjà fait leur choix.
Ce matin, je suis venu vous dire que le temps des femmes est venu. La salle à laquelle vous pensez, mais je suis premier secrétaire et pour l'instant, je ne peux rien vous en dire.
Cette femme, c'est bien sûr Anne Hidalgo, mais le PS a décidé que la maire de Paris devra passer par un vote interne le 14 octobre pour être désignée. Une primaire dans laquelle elle n'aura finalement qu'un seul adversaire, l'ancien ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll.
Stewart Shaw, responsable des études politiques et sociétales de l'Institut de sondage Via Voice. Les choses se précisent donc du côté du Parti Socialiste. Alors, sauf énorme surprise, c'est bien évidemment Anne Hidalgo qui les représentera.
Oui, c'est Hidalgo leader à gauche, évidemment, en tout cas à la gauche socialiste, mais sans réelle dynamique, parce qu'effectivement, vous avez raison de le rappeler, même si sans grande surprise, elle sera intronisée, entre guillemets, candidate socialiste. Sur les intentions de vote qui ont été réalisées sur ces dernières semaines, malgré son entrée en liste, il n'y a aucune dynamique qui se profile au sens global du terme. Elle est évaluée aujourd'hui entre 7 et 8% d'intention de vote. Donc oui, ça sera une candidature sans surprise, mais une candidature pour l'instant sans dynamique. Il faut aussi ne pas oublier qu'il y a un temps de la primaire. Alors c'est une primaire qui sera fermée au Parti Socialiste, mais qui peut aussi être un moment de débat. Et pourquoi pas aussi un moment de fracturation en interne même de cette famille politique. Donc attention, Hidalgo, oui, candidate, mais on ne sait pas comment.
Ah, et Olivier Faure a dit aussi qu'aucun d'entre nous ne pourra gouverner seul et d'expliquer, je le cite encore, pour gagner et transformer ce pays, la gauche et l'écologie doivent se rassembler, ce qui n'est pas anodin au moment où s'achève le premier tour de la primaire écologiste, sachant que Yannick Jadot et Sandrine Rousseau seront au deuxième tour.
Oui, c'est une dynamique là encore une fois qui reste à concrétiser, puisque Olivier Faure, si j'écoutais son intervention, parlait de crédibilité, de force motrice pour le Parti socialiste. Force de constater qu'aujourd'hui, à la fois Yannick Jadot et Anne Hidalgo sont crédités du même score. Donc, qui sera le leader vraiment de cette gauche unie, tout reste ouvert. Et puis ensuite, le deuxième point, c'est que à partir du moment où on considère qu'Europe Écologie reste cette force supplétive, je trouve que ça reste toujours compliqué dans les débats de trouver des points d'ancrage, des points d'accroche, surtout qu'Europe Écologie Les Verts a été très clair, il y aura un candidat écologiste.
Vous écoutez Dimanche Politique dans RFI Soir. Pas moins de 5 pages dans le journal du dimanche, en plus de la une où s'étale ce titre, comment Zemmour veut doubler Le Pen. Le polémiste fait beaucoup parler de lui en ce moment et beaucoup parle de lui, comme il s'en amusait hier à Nice où il dédicaçait son nouveau livre intitulé « La France n'a pas dit son dernier mot ».
Depuis un mois, miracle. Il suffit que uniquement la rumeur de ma candidature tourne pour que soudain, tous les candidats à la présidentielle d'inspiration divine, un tel qui disait qu'il y a quelques mois qu'elle ne voulait pas être associée à moi parce que vraiment j'étais beaucoup trop radical, et alors qu'elle était vraiment un exemple de modération. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle m'a copié.
Et Zemmour qui évoque Marine Le Pen, la candidate du RN à la présidentielle. Réaction du président du parti, Jordan Bardella.
Éric Zemmour est un polémiste. Son travail est donc de faire des polémiques. Nous sommes des responsables politiques, je veux dire, on n'en est plus au stade du slogan. Lorsque j'entends Éric Zemmour dire « aujourd'hui toute la classe politique parle comme moi », la première affiche du Front National contre l'immigration, c'est 1973. Il avait 16 ans, Éric Zemmour. On n'a pas attendu Éric Zemmour pour dire que l'immigration telle qu'elle était organisée pesait à la baisse sur les salaires et puis posait des problèmes de tension communautariste aujourd'hui dans les quartiers. Contrairement à Éric Zemmour, je ne crois pas que la guerre civile, par exemple, soit l'horizon inéluctable de notre pays dans les prochaines années. Contrairement à Éric Zemmour, par exemple, moi je ne considère pas, notamment sur les femmes, que les femmes doivent être mises à l'écart du pouvoir.
Gabriel Attal sur BFM a fait ce commentaire sur ce qui se passe à l'extrême droite et à droite de l'échiquier politique sur les questions de sécurité.
La première raison pour laquelle les candidats comme Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Éric Zemmour s'emparent de ces sujets-là et mettent en avant ces sujets-là, c'est parce qu'ils ne trouvent pas matière à nous critiquer sur les questions économiques, et sur les questions d'emploi et sur les questions de la gestion de la crise sanitaire. Et c'est un sujet sur lequel on agit depuis 2017, en renforçant le budget de la sécurité. Plus de 2,5 milliards d'euros, on crée des postes de policiers et de gendarmes. 10 000 sur ce quinquennat, à l'époque de Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, ils en avaient supprimé 12 500. On augmente la rémunération de nos gardiens de la paix, plus 100 euros net par mois.
Stewart Shaw, Via Voice et vos confrères sondeurs essaient de quantifier la possible candidature Zemmour.
Oui, on essaie. Alors effectivement, c'est une candidature qui est encore assez fictive. Aujourd'hui, selon certains confrères, on a entre 15 et 19% des Français qui seraient prêt à voter pour Éric Zemmour. Alors attention, c'est pas une intention de vote, c'est un rapport de force électorale, c'est une photographie, mais seulement 8% très certainement. Ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'on est sur un temps de la campagne qui est extrêmement particulier. On est sur un temps de pré-campagne où la dénonciation, l'opposition, le fracas dans les annonces prend de l'ampleur et est complètement naturel. Viendra le temps de la campagne où une dynamique de proposition sera mise en place. Et là, c'est pas sûr que M. Zemmour réussisse l'exercice aussi bien.
En tout cas, pour l'instant, pourquoi est-ce que sa parole porte et semble même gêner Marine Le Pen ?
Alors, pourquoi sa parole porte déjà ? Parce qu'on l'a dit, et vous l'avez rappelé dans votre intervention, il parle de sujets qui intéressent effectivement les Français et qui préoccupent les Français. L'immigration, la sécurité, évidemment. Pourquoi ça inquiète Marine Le Pen ? Tout simplement parce que si on en croit les chiffres, en tout cas actuellement, des rapports de force, effectivement, un tiers des électeurs de Marine Le Pen aujourd'hui serait potentiellement prêt à adhérer à une candidature Éric Zemmour. Et Marine Le Pen, finalement, est en train aussi peut-être de pâtir de sa normalisation, de sa stratégie de normalisation, qui donc fait perdre peut-être des militants les plus radicaux et qui voient dans la candidature d'Éric Zemmour une aspiration finalement à cette idée d'antisystème et de radicalité.
Merci pour ces analyses et commentaires, Stewart Chou, responsable des études politiques et sociétales de l'Institut de sondage Via Voice. Et je signale que vous publiez ces jours-ci un livre intitulé « La fracture » aux éditions Les Arènes. Cela avec le directeur général de l'IFOP, Frédéric Dabi, qui nous en parlera d'ailleurs plus longuement dans le débat du jour, vendredi prochain sur RFI. Il est question de ces jeunes qui broient du noir, notamment à cause du Covid, et qui font des choix de vie et des choix politiques nouveaux qui pourraient d'ailleurs peser sur la présidence de l'année prochaine. C'était Dimanche Politique sur Radio France Internationale.